au-delà de traiter des problématiques, ralentir des chutes, réguler des cuirs chevelus, il y a comment est-ce que je réinterroge la relation que j'ai avec moi-même, comment est-ce que je vais porter de la conscience.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! Bien plus qu'un simple attribut esthétique, les cheveux sont depuis la nuit des temps le reflet de notre identité, un marqueur social, un symbole de pouvoir ou d'objet de rituel. Ils portent en eux une charge culturelle, spirituelle et émotionnelle immense. Prendre soin de ses cheveux n'est pas seulement une affaire de beauté ou de mode, c'est un geste de conscience, un rituel quotidien qui nous relie à nous-mêmes et à notre vitalité. Dans un monde saturé de tendances éphémères et de fausses promesses, les cheveux nous rappellent l'importance de revenir à l'essentiel, une relation vivante, consciente et respectueuse de ce avec quoi on vit. Dans ce podcast, nous allons voyager au cœur de cette relation intime et universelle et on va apprendre à écouter et à comprendre nos cheveux pour leur donner ce dont ils ont besoin. Avec moi aujourd'hui, j'ai une experte en santé du cheveu, Malika Lemzili-Costil. Bonjour Malika.
Bonjour Noémie.
Je suis ravie de t'avoir dans ce numéro de Healthwise, trichologue experte en soins capillaires holistiques, mais aussi autrice du livre Good Hair Day que j'ai là. Et il est sorti il n'y a pas longtemps.
Exactement.
Une consécration.
Fin mai. Oui, oui. Un peu. En tout cas, une étape sur le chemin, on va dire.
Chez Sunday, le dimanche, c'est le jour du repos et du temps pour soi. Est-ce que tu as une routine que tu apprécies particulièrement ce jour-là?
Oui, alors déjà, tout d'abord, merci de m'inviter pour ce podcast. Puis j'adore Sunday Naturel, c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Donc voilà, je suis très honorée. Puis tu as presque tout dit dans ton intro, donc
je
peux presque m'en aller. Mais je vais quand même répondre
à
ta question.
J'ai pas mal de questions, donc
je vais quand même répondre à la question de la routine du dimanche. Alors figure-toi que le dimanche, c'est un vrai jour off pour moi, puisque je bosse souvent le samedi. Et oui, les gens ont du temps le samedi. Et le dimanche, c'est un jour que je consacre alors à ma famille, évidemment, mais surtout beaucoup aux soins de mes cheveux.
Ah oui.
Oui, je prends le temps de faire pas mal de soins avant shampoing. Je fais poser des bains d'huile, des poudres ayurvédiques. J'adore ça.
Oui.
Je fais mon ménage pendant la pause de mes soins.
Ouais.
Et puis, parfois même, je vais faire des courses ou au parc avec ma fille, avec le soin sur ma tête.
Et ah ouais.
Oui, ça me donne une drôle d'allure, mais c'est
une
moment...
Une dédication.
Voilà, où je prends le temps avec beaucoup de lenteur dans les soins et je m'octroie même le plaisir de faire poser le masque ensuite. Donc, c'est vraiment reconnexion, lenteur. C'est un moment où on est autorisé à prendre son temps. Donc, c'est dédié aux cheveux, à ma famille évidemment, mais pour moi c'est vraiment un rituel de connexion à ma chevelure et j'ai pas le temps de faire poser forcément en semaine 30 minutes chaque soin quoi. Voilà, donc ça c'est un bon rituel que j'invite et que je crois pas mal de personnes
oui,
font.
Oui, c'est vrai, moi aussi c'est le jour de la douche de tout.
Des
soins de tout.
Oui.
Et parce qu'on prend du temps pour soi en fait et
on se lave quoi, c'est la fin de la semaine et ça nous permet de bien démarrer le lundi avec
exactement.
Un cheveu propre.
On est tellement glow le lundi.
Le lundi après. Puis après du lundi, mardi, vendredi,
ça se dégraine. Bon, non, c'est pas vrai.
Non mais c'est ça.
Mais en tout cas, dans ton livre, tu décris un peu aussi ton histoire avec les cheveux, même avec ta famille. Donc, piliers que tu as mentionnés déjà dans ce jour-là. Tu abordes même que les cheveux créeraient du lien silencieux et qu'aujourd'hui, même avec ton métier, on peut dire que tu continues à créer du lien, en fait, parce que tu le fais pour toi, pour les autres, entre les autres, puisque tu as une communauté aussi sur Instagram avec Malika.
Oui.
Mindful Hair.
Oui, bravo.
Merci. Tu vois, j'ai bien bossé. Mais justement, même là, tu es invitée au micro de Healthwise pour créer du lien pouvoir parler aussi avec les autres.
Mais oui. Moi, j'aime bien dire que le cheveu est comme un lien. Bah, déjà, physiquement, c'est quand même comme un fil. Hein.
Mm-hmm.
Et je trouve qu'il permet vraiment de connecter déjà à soi-même. Donc, le lien avec soi-même, parce que quand on connecte à sa chevelure, c'est quand même un temps de self-love important. Donc, ça nous permet d'être au contact très proche de nous-mêmes, nos ressentis. Et je trouve que ça relève beaucoup de l'amour de soi, le fait de prendre soin de ses cheveux. Et par ailleurs, moi, quand je reçois donc des clientes, effectivement, le cheveu est ce lien qui me permet comme de dérouler une petite pelote jusqu'au nœud, au vrai nœud, qui est souvent pas le cheveu. Et donc, derrière le cheveu, moi, ce que je touche, c'est plutôt des histoires, des blessures, des chemins de vie, des identités. Donc, c'est très, très, très large. Et je travaille beaucoup avec un espèce de cierge. Je ne suis pas chrétienne, mais je suis inspirée par toutes les traditions. Et c'est Marie qui défait les nœuds. Et donc, c'est Marie-Madeleine qu'on disait qui était la compagne ou voilà, le bras droit de Jésus, qui en fait défait les nœuds de l'âme, quoi. Et en fait, elle a des très longs cheveux. Marie-Madeleine, elle est connue pour avoir lavé les pieds du Christ avec ses cheveux, en symbole de dévotion, etc. Donc, c'est une image, un archétype qui m'accompagne beaucoup. Et donc, pour moi, c'est un vrai nœud, fil, lien. Puis même, je sais pas si tu as vu le film La Tresse, c'est une adaptation du livre de Laetitia Colombani, qui s'appelle La Tresse, et qui met en exergue comment, aux quatre coins du monde, les femmes peuvent être liées par le cheveu. Alors là, on se parle des cheveux sacrifiés en Inde, qui se retrouvent avec les cheveux récupérés par une autre femme aux États-Unis. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même la symbolique du lien, du fil invisible aussi. Le fil aussi de l'âme. Donc, on peut aller très, très loin, mais je vais m'arrêter là.
Et la symbolique de ton pseudonyme, Malika Mindful Hair, ça voudrait dire quoi ?
Alors, le sens de ça, mindful, ça veut dire conscience, être en conscience, être en présence. Moi, j'ai vraiment découvert, rencontré la pleine conscience d'un point de vue de... Enfin, la méditation de pleine conscience, il y a une dizaine d'années. Ça a vraiment transformé quelque chose pour moi quand j'ai commencé à comprendre que être conscient de ce que je fais, donc de comment je m'alimente, que en fait chaque action que je fais pour moi, eh ben ça finit par obtenir des résultats. Ça m'a fait aussi poser de la conscience sur mon rapport à ma chevelure, à comment est-ce que j'en prends soin ou pas. Et donc c'est quelque chose de l'ordre de cheveux en conscience, en pleine conscience. Et derrière, au-delà de traiter des problématiques, ralentir des chutes, réguler des cuirs chevelus, il y a comment est-ce que je réinterroge la relation que j'ai avec moi-même. Comment est-ce que je vais porter de la conscience ? Et j'ai une cliente récemment, mercredi, que j'ai eu en soin, qui a lu mon livre tout l'été. Elle m'a dit, mais tu sais, Malika, maintenant, j'ai intégré ma chevelure comme un membre à part entière, comme un organe. Ah oui. Et en fait, elle met de la conscience, littéralement, dans ses cheveux. C'est plus juste un apparat, une matière qui est là. Mais, donc, il y a vraiment de la conscience. C'est une qualité de présence très profonde à soi-même et au monde. Ça, c'est très précieux, je pense, dans la vie, au-delà du cheveu.
Et aujourd'hui, on veut plus seulement avoir de beaux cheveux, on veut des cheveux en bonne santé. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai invitée aussi avec Healthwise, parce que la santé du cheveu, c'est important dans ces demandes-là. Et je pense qu'il y a, ce que tu disais, les personnes comme celle que tu as mentionnée, qui prennent conscience que les cheveux, c'est lié à un état de santé global. Et moi, je le vois directement dans la prise de compléments alimentaires chez Sunday, et le lien avec les carences surtout, que les gens se tournent de plus en plus vers des méthodes de coiffage plus douces, plus naturelles, moins de produits, plus conscients, comme tu l'as mentionné, pour faire moins de mal à son corps, en fait. Et c'est quoi la tendance, toi, que tu as vue, qui est la plus intéressante dans la santé du cheveu ces dernières années ?
Alors, ce que tu dis deux choses. Déjà, la première chose sur l'approche globale, le tout dans le tout, les liens entre le micro et le macro, le cheveu. Donc, alors on dit le cheveu vulgairement, mais en fait c'est le follicule pileux parce que c'est le lieu d'habitation du cheveu. Donc c'est là où tout se passe. C'est une sorte de coupe dans lequel le cheveu grandit, pousse comme un. On pourrait dire un utérus. D'ailleurs, il y a des parallèles. On dit follicule pileux. Donc, un follicule, c'est vraiment le lieu d'habitation du cheveu. Et ce follicule, il est
innervé, en tout cas il est irrigué par le sang. Donc le cheveu pousse grâce à ce qui est contenu dans le sang. Et donc on peut très facilement avoir la météo, ça peut être un indicateur en tout cas de sa vitalité, puisque par le sang, tous les nutriments passent, on peut observer les carences, les niveaux hormonaux. Et c'est pour ça qu'on dit que le cheveu est une photographie de la santé. Alors parfois c'est au quotidien, on peut observer que notre cheveu est un peu plus plat parce qu'on est fatigué, qu'il y a moins de rebond, qu'il se place moins bien. Mais aussi à 3-4 mois de près, quand on observe une chute ou vraiment une dévitalisation, il faut se tourner vers ce qui s'est passé 3-4 mois avant, parce que c'est un premier cycle dans le cycle du cheveu, pour se dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, est-ce que j'ai moins bien mangé, est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel, est-ce qu'il y a eu un bouleversement hormonal. Donc le cheveu va être un très bon indicateur, mais on y reviendra peut-être plus. Et après, dans les tendances, donc moi déjà, ce que j'ai observé, c'est que les gens prennent beaucoup plus soin d'eux. Donc moi, je le date au niveau du Covid, à l'ère post-Covid, où en fait, il y a eu les coiffeurs ont fermé, donc on a été privé de coiffeurs, et il y a eu vraiment un mouvement de réappropriation de son cheveu dans le soin, qu'on déléguait souvent au coiffeur, qui nous disait, qui prenait soin de nos cheveux, c'était vraiment le coiffeur. Et donc il y a eu un mouvement comme ça de, je suis seule face à moi-même, donc je vais finalement aller dans ma salle de bain, pardon, et voir avec quel produit fait sens par rapport à mon besoin. Enfin, on a un peu utilisé ce qu'on avait sous le coude. Il y a eu les cures de sébum, souviens-toi, pendant le, donc il y a eu des expérimentations capillaires, mais aussi, on s'est mis à écouter. Des influenceurs, des influenceuses nous parler de cheveux, nous parler du soin cheveux. Et il y a eu vraiment une explosion même des personnes qui s'expriment sur le sujet capillaire et un boom des produits capillaires parce que les gens se sont réappropriés, ont repris le pouvoir entre guillemets sur leur chevelure, à commencer par le mouvement Curly Hair qui a vraiment explosé aussi post-Covid avec des marques pour ne pas citer de noms qui ont explosé à ce moment-là, parce que il y a eu cette envie, cet élan, et finalement on n'a pas eu vraiment le choix que de se dire je vais devoir m'occuper moi-même de mon cheveu. Donc ça passe par un moment de réapprivoiser en fait sa chevelure, et quand on a les cheveux bouclés, texturés, ça demande quand même une certaine connaissance, une certaine expertise. Il y a une montée, Donc ça c'est une autre tendance, le fait de prendre soin de ses cheveux. Et puis après il y a ce qu'on appelle la skinification, qui est une tendance qui consiste à prendre soin de son cuir chevelu comme de sa peau. En fait, on a commencé à comprendre en se disant le cheveu pousse sur un cuir chevelu qui est la peau en fait du crâne, c'est celle qui protège la tête. Et on était très obsédés sur les skincare routines, le visage. Mais disons que le cuir chevelu, il était un peu le dernier, le dernier soldat. Et là, on commence à prendre conscience de manière très forte que en fait, le cheveu pousse sur un terreau fertile, sur un cuir chevelu sain, que tout commence à la racine, plus qu'à la racine, donc dans le follicule, comme je te le disais. Donc c'est ce qu'on appelle la skinification, c'est un terme, je m'arrête là parce que je vais encore en parler.
J'ai au moins appris quelque chose. Je connaissais pas ce nom derrière cette tendance là. J'ai appris beaucoup dans ton livre, donc je vais te citer quand même pas mal de choses comme ça, on peut venir en détail. Tu dis que les cheveux sont un reflet vivant de notre histoire, de notre corps et même de nos émotions. Est-ce qu'on peut pas dire aussi qu'on peut lire notre vie dans nos cheveux? Peut-être mieux que dans une boule de cristal, j'imagine que les cheveux sont liés à notre identité, origine, personnalité. Il y a plein de choses qu'on peut voir dans nos cheveux.
Oui. Vraiment, le cheveu, c'est le qui suis-je, en fait. Et pour te dire, on retrouve des brins d'ADN dans le cheveu. Donc, il y a quand même des hélices. Il y a quand même des indicateurs ultra singuliers sur notre ADN. Et il y a même une approche qui n'est pas très développée en France, mais d'ailleurs plutôt en Allemagne, en Suisse, de détection des problématiques vraiment métaboliques, chroniques, la vraie pathologie, en révélant ils utilisent des différents révélateurs pour mettre en avant, en fait, à l'aide d'un prélèvement de cheveux, les problèmes de diabète, les pathologies chroniques. Donc là, c'est l'aspect plus scientifique. Il y a j'invite à lire un livre qui s'appelle Le cheveu miroir de votre santé de Romain. Voilà, il est très costaud, vraiment, c'est très complexe, mais c'est intéressant. De Robert Zirmi. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, le cheveu déjà, c'est le qui suis-je, parce que il est on ne peut plus nous, c'est quelque chose dont on hérite. Il y a une dimension héréditaire quand même pour une bonne part dans le cheveu. Donc il est très en lien avec notre lignée. Donc il n'y a pas deux fois le même cheveu. Et il vient aussi parler de ce que l'on peut vivre parce qu'il est lié à notre monde psycho-émotionnel. Donc à notre quand même inconscient individuel et collectif, parce que de tout temps, on a projeté sur notre chevelure des symboles. Donc, on a quand même des millénaires derrière nous de sens, de signification que nous, on récolte.
Raser les crânes aussi, pour aliéner.
Ouais, pour aliéner, pour supprimer le pouvoir. Et puis même, oui, il y a eu plein de fantasmes comme ça, de mythes qu'on récolte. Et puis, il y a notre propre inconscient individuel, c'est-à-dire que signifie le cheveu pour moi ? Comment il me lie à autre transgénérationnel ? Dans le cheveu, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il a une division cellulaire très importante, ce qui le rend très réceptif à l'information. C'est pour ça que dans les traitements chimio, c'est souvent les traitements chimio qui font chuter les cheveux, ce n'est pas le cas de tous, le premier signe, c'est la chute de cheveux.
Oui.
Parce qu'il s'attaque à toutes les cellules et il y a une division cellulaire effrénée au niveau des follicules. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est une division cellulaire plus importante que la peau du corps. Pour produire du cheveu tout le temps. Pour pas qu'on se réveille avec pas de cheveux sur la tête, quoi. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et donc, ça capte beaucoup l'info. Et deuxième élément pour le cerveau, le cheveu ne sert à rien puisqu'il n'est pas un organe vital. Donc, il va être un territoire de psychosomatisation favori du cerveau qui ordonne la survie. Et quand il y a une menace pour la sécurité et la survie de l'humain, il va répercuter sur ce qu'il considère comme accessoire non essentiel. En l'occurrence, la peau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problématiques cutanées, psoriasis, zona, etc. Et le cheveu va être souvent, à 3-4 mois après, ce réceptacle psycho-émotionnel. Donc, il est vraiment très, 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 très proche de nous. Dis-moi, hein, tu peux m'orienter parce que je peux aller... C'est un vaste sujet.
Non, mais c'était bien de montrer toutes les parts d'identité et tout ce qu'on peut voir. Moi, j'aime bien aussi le fait que tu fasses des coupes énergétiques parce qu'il y a même de l'énergie donc, dans le cheveu.
Oui, en fait, c'est une dimension symbolique. Le cheveu est symbolique, mais comme toute chose, le symbolique rejoint toujours le plan manifeste. Hein. C'est-à-dire qu'à force de créer du symbole, ça devient littéralement réalité. Donc, la coupe énergétique, c'est de clôturer des cycles. Le cheveu n'est que cycle. Hein. Il y a des cycles, on parle de cycle capillaire. Dans le cycle, il y a d'autres cycles. La vie est un cycle. Donc, c'est comment on vient clôturer des cycles de vie des phases, des transitions par le cheveu. Donc, il y a un rituel et un protocole qui fait traverser la personne dans ce qu'elle doit traverser. Et en même temps, c'est un soin pour le cheveu parce qu'avec la vibration d'un sabre, je coupe les cheveux avec un sabre japonais très élégant, un tanto, on vient envoyer une vibration au niveau des follicules pileux qui, c'est comme une électrostimulation toute douce pour réveiller, apporter de la vitalité. Donc, c'est un stimuli hein, pour le cheveu. Et le cheveu, plus il est stimulé, plus il est content. C'est assez bête et méchant. Hein. Mais oui, tout à fait. La coupe énergique. Et après, il y a une dimension aussi énergétique parce que dans le massage, on vient activer ce qu'on appelle les chakras. Alors, ça, c'est en fonction des croyances. Moi, c'est pas que j'y crois, mais je l'observe qu'il y a des effets. On a quand même deux chakras très important sur la tête, donc au sommet du crâne, le chakra couronne, le troisième œil, et qui sont en lien aussi avec certaines glandes pinéales, hypophyses. Donc je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que ça peut ne pas parler à tout le monde, mais la coupe énergétique, c'est un soin énergétique, mais c'est aussi d'abord un soin pour le cheveu, qui fonctionne très bien dans le ralentissement de la chute et la vigueur de la repousse.
Bah, c'est super intéressant parce que je ne connais pas beaucoup de personnes
qui l'ont fait. Mais tu viendras en faire une,
c'est
peut-être.
Ça. La prochaine fois que je reviens, on continue. Je ne veux pas spoil tout ton livre qui s'appelle Good Hair Day. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'inverse ? C'est quoi un Bad Hair Day ?
Oui, bah, c'est à nouveau assez subjectif. Moi, je voulais dire Good Hair Day parce qu'il y avait quelque chose du nouveau cycle, de l'élan, du jour nouveau. Et de bah, chaque jour, c'est un moment de reconnexion avec ses cheveux. Et puis, je trouvais que la formule était très intéressante. Et en utilisant une formule très connue, très mainstream, de l'utiliser pour quelque chose d'un peu plus profond, c'était intéressant. Mais le Bad Hair Day, il y en a qui vont te dire bah, « c'est parce que j'ai pas les cheveux bien faits, c'est parce que ma frange, elle se passe plat bien. » Ma mèche, elle se passe pas bien. D'autres, ils vont te dire bah, aujourd'hui, je me suis pas connectée à ma chevelure. Donc, tu mets ce que tu veux, tu projettes ce que tu veux. Un bad hair day pour moi, c'est souvent tiens, j'ai pas fait ma petite routine, j'ai pas mis mon petit sérum en tube, mes quelques minutes d'automassage. J'ai un peu délaissé le cheveu et puis du coup, je sais pas, il se place pas bien, j'arrive pas. Voilà. Ce sera mieux demain.
Ok. On parlait tout à l'heure bah, de tout ce qu'on pouvait voir dans le cheveu. Du coup, il y a pratiquement même un auto-diagnostic qu'on pourrait faire.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut regarder qui serait intéressant pour nous pour se pouvoir lier vers quelque chose ?
Alors, tellement de choses. Ouais. Alors déjà, à commencer, c'est souvent si on se réveille le matin, on observe plein de cheveux sur son oreiller. Ah, c'est un indicateur qu'il y a potentiellement une phase de chute. Pour le vérifier, il faut vérifier si quand on se bosse trois fois les cheveux dans la journée, donc il faut se bosser trois fois, ben il faut faire le test de traction. Si pendant trois fois par jour, j'ai la même quantité au brossage, plus de 100 cheveux, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cheveux qui se synchronisent en phase télogène, donc en phase de chute. Si on observe que quand je tire sur en moyenne 50 endroits de ma tête, j'ai les cheveux qui partent trop facilement, c'est que le cheveu est vraiment précipité en phase de chute. Quand le cheveu est en phase de chute, il est vraiment... Donc ça, c'est... Ça, c'est le cheveu pousse dans la coupe, le cheveu, il est implanté à la base. Le cheveu, il est déjà là. En fait, il remonte au fur et à mesure. Si tu veux, je sais pas... il s'est filmé ici, donc c'est parfait. Mais il remonte au fur et à mesure le bulbe. Donc ça veut dire qu'il était déjà... Il a déjà prévu de tomber, mais il y a comme une accélération. Ensuite, on peut observer si on a le cuir chevelu inconfortable, rigide, qu'on n'arrive pas bien à mobiliser à l'automassage. Si on observe un cuir chevelu rosé vraiment, c'est-à-dire à l'œil nu, rosé, ça veut dire que moi, si je le regarde à la caméra, c'est qu'il peut être rouge vif. Donc, ça peut traduire une inflammation, une hypervascularisation, une hyperréactivité du cuir chevelu. Donc, tension... cuir chevelu rosé, irrité, squam, donc la peau du cuir chevelu qui se détache de manière plus ou moins importante, des démangeaisons aussi chroniques. Ça, c'est des choses dont on est peut-être aware. Enfin, on veut vraiment capter ça, quoi. Il faut venir consulter un spécialiste, un tricologue, un dermato. Si vous avez un bon dermato, il fera un examen visuel. Mais à la caméra, on observe tellement de choses. Donc, je fais des bilans trichogrammes et c'est superbe de voir ce qui se l'écosystème dans lequel vit notre cheveu. Et il y a plein de belles chevelures longues. Et quand on regarde le cuir chevelu, on se rend compte que c'est pas ça, quoi, qu'il y a une hyper-irritation. Voilà, donc ça, c'est des indicateurs à observer.
Et on voit aussi qu'il y a plein de catégorisations de problématiques capillaires qui existent et qui sont assez courantes. Je voulais qu'on fasse un petit tour d'horizon de toutes les problématiques et que tu me dises rapidement les causes courantes, tous les principaux facteurs, ce qui te passe par la tête.
Okay.
Et peut-être donner une petite
comme ça, de manière très rapide.
Je te poserai une question si jamais j'ai envie de savoir plus. La première, c'est la chute de cheveux diffuse là, que tu parlais, donc un peu, un peu partout. Ce serait dû à quoi
Il y a une chute diffuse, ce qu'on appelle un effluvium télogène, donc c'est assez progressif sur l'ensemble de la tête. Elle peut être cumulée à d'autres problématiques, genre alopécie androgénétique, effluvium multifactoriel et potentiellement deuil, perte, séparation, ce qui était, ce qui n'est plus.
Avec le stress, en fait.
Oui, stress, niveau de cortisol élevé sur une longue, longue, longue durée, un épuisement de la vitalité des surrénales, fatigue un peu. Il y a quelque chose de chronique comme ça. Il y a quelque chose dans des chutes diffuses sur plusieurs années, de quelque chose qui épuise à petit feu sur le long terme. Ça peut être des multifactoriels, ça peut être des un choc émotionnel cumulé à une carence, à un burn-out, plus souvent c'est les circonstances cumulatives qui font que la chevelure va s'affiner, accélération du cycle pilaire, affinement.
Moi, j'ai déjà entendu ça en postpartum, ménopause.
Postpartum, c'est un effluvium tellogène. Postpartum, c'est une désimprégnation hormonale due à la diminution des œstrogènes en postpartum. C'est aussi la fin de la séparation avec la vie, de la vie intra-utérine. Souvent, ça apparaît souvent au bout de 3-4 mois. Et normalement, c'est censé s'arrêter au bout du... au plus tard un an, si ça continue, c'est que ça devient chronique. Parce que souvent, c'est cumulé à la fatigue postpartum, parfois des dépressions postpartum. À plein d'autres choses. Donc, il y a postpartum, thyroïde, Hashimoto, hypo, hyper. C'est des facteurs de chute.
Mais chute effectivement, diffuse.
Chute diffuse, ouais, vraiment. Hypo, Hashimoto, très miniaturisation, effectivement. Ouais, absolument.
La seconde, c'est alopécie androgénétique.
Très hormonale, DHT. Donc, c'est l'enzyme DHT qui accélère le cycle pilaire. Donc là, c'est des profils plus androgéniques. SOPK.
Et pour les hommes, c'est la calvitie progressive.
On parle aussi d'alopécie androgénétique ou la calvitie progressive. Les hommes, ils sécrètent plus d'androgènes, donc de testostérone, de manière plus précoce, et ça peut être accéléré par le stress qui génère des taux de cortisol plus élevés, et du cortisol, on sécrète plus d'hormones androgènes et donc de DHT. Et comme on a beaucoup de récepteurs hormonaux sur le cuir chevelu, sur la ligne médiane, ici, au niveau des lobes frontaux, sur le vertex, particulièrement pour les hommes.
Ah, c'est pour ça que ça commence ici.
Toujours. La mesure de l'alopécie androgénétique, le stade, si c'est avancé, modéré, débutant, on le remarque à l'éclaircissement de la ligne médiane. Donc, alopécie androgène, terrain hormonal, il y a une sécrétion d'androgène plus élevée, mais c'est que la balance n'est pas bonne avec les œstrogènes, quoi.
Ensuite, perte de densité. Et donc, ça veut dire qu'ils deviennent plus fins progressivement.
Tout finit par devenir plus fin, parce que dans l'accélération du cycle pilaire, il y a le phénomène de miniaturisation du cheveu. Le cheveu n'a plus le temps d'avoir la bonne temporalité dont il a besoin pour avoir un calibre suffisamment épais. Donc, il va s'accélérer, il ne va pas prendre le temps de s'épaissir. Donc, le cheveu va être de plus en plus fin,
Comme les seniors, en fait, qui ont le cheveu plus fin.
Alors oui, et c'est un épuisement vraiment du cycle pilaire. Et on arrive à la 60, 70 ans, ça stagne et il y a une sorte de en fait, on arrive quasiment à la fin des cycles, puisque les cycles pilaires, on en a une durée limitée dans une vie. On en a 20-25. Normalement, on est censé, entre 3 et 7 ans dans le meilleur des cas, on est censé mourir de notre belle mort avec une longue chevelure. Mais tout vient grignoter ces cycles. Donc, il y en a à 60 ans, ils ont quasiment épuisé. Mais normalement, après la miniaturisation, il y a un autre stade de follicule en dormance. Donc, c'est le porc qui arrête de produire du cheveu. On le voit à la caméra, ça fait juste un rond sans cheveux. Et là, le follicule est en dormance et il faut le réactiver, réveiller, le stimuler avec tout ce qu'on peut pour le stimuler vraiment mécaniquement en in et en out pour le refaire pousser. Puis après, il faut travailler sur la vigueur parce que la repousse, elle peut être assez faible.
Ok, interesting. Maintenant, on va dans les trucs un peu plus communs, j'allais dire, les cheveux secs.
Cheveux secs, manque de protéines, beaucoup de brushing, de coloration, décoloration qui fragilise la fibre capillaire en ouvrant les écailles qui ont du mal maintenant à se refermer. Puis ça entraîne souvent cheveux secs, cassants, fourchus. C'est souvent des conséquences.
Ensuite, cheveux ternes.
Manque d'éclat, ça peut être structurel. Il y a des gens qui ont le cheveu terne de base, ça peut être des colorations à répétition aussi. Ça peut être aussi le grisonnement, une partie de stress oxydatif qui ternit la chevelure. L'alimentation aussi, pas assez soufré. Et après, parfois, c'est un problème d'écailles. Si les écailles sont ouvertes, trop ouvertes, la lumière se réfléchit pas bien. Ça fait moins l'effet miroir. Donc, en fait, il y a moins de réflexion de lumière. Donc, la chevelure paraît un peu plus éteinte.
Ok. Ensuite, je passe aux cheveux cassants. Là, tu disais que ça faisait partie des cheveux secs, mais est-ce que ça...
Alors, parfois, ça vient avec la miniaturisation du cheveu. Dans certains cas de chuc, le signe un peu alarmant, c'est que le cheveu casse parce que les nutriments... Le cheveu devient trop fin, Donc, s'il devient trop fin, il finit par casser. Et les nutriments, parfois, dans les cas de carence, beaucoup, on voit le cheveu qui casse. Ouais, c'est vraiment...
Carence en quoi
C'est carence fer, protéines, acides gras essentiels, zinc, acides aminés. Ça fait une chevelure qui va finir par casser.
Il manque d'hydratation, peut-être
Ouais. Oui, oui, mais ça vient avec l'assèchement. Enfin, c'est assez métabolique, effectivement, le cheveu cassant. Ça peut être mécanique, dû à des traitements chimiques thermiques. Et ça peut être aussi, enfin, souvent, c'est quand même, ça peut être cumulé avec du métabolique aussi, ouais.
Ensuite, c'est les pointes fourchues.
C'est similaire, ça fait des points de casse. C'est un type de casse, en fait. Hein. C'est juste que ça fait des petits points qui, ouais. Et le cheveu finit par casser au niveau de la pointe.
Bah, on nous dit de couper nos cheveux.
Bah, en fait, c'est esthétique, mais ça, ouais. ça, en fait, si tu ne traites pas le problème, les cheveux vont continuer à repousser. On va recréer des fourches. Beaucoup le traitement thermique qui fait les cheveux fourchus. Et l'assèchement. Plus la fibre va être sèche, plus elle va tendance à avoir, à créer comme ça, à se splitter. Mais couper, aura juste un effet visible, visuel, et pas à la
racine.
Pas
pour la santé, quoi.
Ah non, ça fait pas repousser les cheveux. En revanche, une lame de... des ciseaux de coiffeur, c'est une lame qui est vide, quoi. Hein. Donc, elle vient pas envoyer de vibrations à la racine. Elle agit uniquement, strictement, sur l'extrême pointe. À l'inverse du sabre, en coupe énergétique, qui parcourt la fibre et qui vient jusqu'en racine.
Ok. Ensuite, c'est les cheveux gras qu'on appelle aussi séborrhées.
Oui, séborrhées ou hyper séborrhées. C'est très alimentation inflammatoire, alimentation ultra transformée. Il y a quelque chose à revoir souvent autour du foie. Mauvais tri du foie, enfin foie un peu chargé. Il y a peut-être une détox à faire. Ça peut être aussi
hormonal.
Souvent, il y a des androgénies, de SOPK aussi beaucoup.
Donc,
il y a intérêt hyper androgénique. Ouais. Et bien sûr, cumul de produits qui viennent asphyxier, mais c'est pas les cas. Le cheveu peut regresser un petit peu plus en disant tiens, parce que shampoing inadapté, parce que j'ai pris ou une mauvaise compo trop riche, trop lourde, donc en réactionnel, donc ça va être très temporaire, mais l'hyperséborrhée, la séborrhée un peu chronique, ça peut être aussi lié à des lavages répétés, parce que du coup, par effet rebond, le cuir chevelu va falloir se protéger pour recréer un écosystème. Il va faire travailler les glandes sébacées, mais souvent il y a quand même quelque chose en lien avec le foie, la colère, feu éteint. Ouais, c'est souvent c'est l'organe de la colère. Il y a quelque chose d'un peu d'inflammatoire en trop, quoi. Et l'alimentation joue une grosse part. Après, il y a une part aussi structurelle. La personne peut avoir un terrain plutôt de cuir chevelu tendance gras. Donc il faut le rééquilibrer, quoi.
Ok. Ensuite, c'est les pellicules.
C'est aussi un trait inflammatoire. C'est une accélération du renouvellement des cellules du cheveu, de la peau en fait. Pas du cheveu, mais de la peau du crâne. Donc, c'est une desquamation. Il va y avoir un renouvellement, si tu veux, normalement, c'est plutôt 21 jours. Le renouvellement va être beaucoup plus court, en 14, 7 jours. Donc, nécessairement, tu vas produire de la peau, des desquamations en plus, qu'on va retrouver sur les épaules, l'oreiller... Et ça, c'est souvent le cas d'un déséquilibre du microbiome lié à des champignons. Les pellicules, c'est le Malassezia. Donc, c'est un champignon qui se suractive. Sur le cuir chevelu, on a des gentils, des méchants. C'est comme le microbiote intestinal. Il y a un microbiome. Et dedans, tu as des levures, des champignons qui permettent de maintenir aussi un pH qui est légèrement acide pour le cheveu. Et parfois, quand il y a un déséquilibre, alors ça peut être alimentaire, ça peut être quelque chose qui va venir rendre plus vulnérable l'équilibre.
Comme l'immunité.
L'immunité, enfin il y a vraiment, c'est hyper multifactoriel. L'état pelliculaire, ça peut être aussi beaucoup d'alcool, beaucoup de tabac. Et du coup, le Malassezia va se suractiver. Et pour répondre, les cellules du cuir chevelu, les cellules cutanées vont s'emballer, mais en réponse, vraiment pour à nouveau réagir. Et donc, ça va... En fait, c'est une conséquence, c'est pas la cause, l'état pelliculaire, c'est qu'il y a une suractivation de ce champignon qu'on observe très bien à la caméra. Et alors, parfois, il y a aussi, d'un point de vue plus psycho-émotionnel, tu sais, le côté syndrome du petit chef, c'est beaucoup très en lien avec la réussite sociale. Les états pelliculaires, c'est plus masculin que féminin. Les femmes vont plus avoir des dermites, c'est boréique. Et état pelliculaire, il y a quelque chose de la colère de ne pas arriver là où j'aimerais arriver, quoi. Il y a vraiment un décalage entre ma réalité, ma réussite et ce que j'aimerais, tu vois. Donc, très pro, vie perso, une contraction, une tension comme ça.
J'ai appris tellement de trucs sur les pellicules.
Mauvaise alimentation, là, tu vois, souvent les hommes ont des alimentations plus grasses, plus sucrées. Ils viennent acidifiantes, ça vient perturber les équilibres acido-basiques. Et tu te retrouves avec une suractivation du malassezia.
Oh wow. Ensuite, le cuir chevelu sensible ou irrité.
Là, ça peut être aussi un état inflammatoire interne, chronique, qui vient du coup toucher aussi la vascularisation du cuir chevelu. C'est à tous les étages, souvent l'inflammation. Il y a des personnes qui ont de l'endométriose qui se retrouvent avec une irritation du cuir chevelu. C'est une hypersensibilité, une hyperréactivité parfois aussi nerveuse. Donc souvent, ça va être des profils quand même un peu nerveux, je trouve, mais très intériorisés. Donc souvent, c'est des personnes qui paraissent très calmes, je trouve. Et en fait, on regarde le cuir chevelu, c'est vif. Il y a vraiment une tension. Donc c'est quand même inflammatoire. Donc ça va demander beaucoup d'apaisement, de fraîcheur, de froid, de compresse, calmante, camomille. Tu sais, on en parlait tout à l'heure.
Directement sur le cuir chevelu,
des hydrolats. Oui, bien sûr. C'est calmement apaisant, mais le problème, c'est que c'est un peu chronique, ça revient, ça part, ça revient comme l'état pelliculaire, une fois que le champignon, dans le psoriasis, la dermite, c'est comme si tu lui avais donné le passeport d'entrée à ton cuir chevelu, donc ça part, ça revient. Il y a plein de gens qui me disent, pendant l'été, j'ai rien eu, c'était parfait, et là, la rentrée, le stress, la pression interne, les pressions externes qu'on reçoit, ça revient et c'est reparti pour un tour. Donc quand on l'a, il y en a même qui disent mon pso, ma dermite, tu vois.
Elle est de retour.
Ça devient en fait juste un truc, un compagnon avec lequel tu vis, qui peut être un indicateur de comment je me sens.
Ouais.
Alors là, si j'ai une alimentation trop grasse,
c'est revenu,
trop transformée.
Ensuite, c'est la croissance lente.
Alors, ça, il faut faire un peu attention, parce que souvent, le cycle pilaire est plutôt tendance à l'emballement.
Ah ouais.
L'inertie, elle est plutôt due à une sensation, à un ressenti de la personne, c'est-à-dire « mes cheveux ne poussent pas ». Donc soit c'est les sujets qu'on a évoqués, cheveux cassants, fourchus, donc en fait, ils ne peuvent pas atteindre une longueur digne de ce nom, parce qu'en fait, ils se fragilisent. Donc on est souvent obligé de retourner les couper, donc le cheveu ne pousse pas vraiment. Ou alors, c'est un problème de nutriments. C'est très souvent lié à l'alimentation carencée, vegan, sans quelque chose, ou restrictif. Tu vois, tous les régimes un peu autorexiques, ça va comme ralentir parce que il y a en fait c'est la phase de croissance qui va être beaucoup plus longue, la phase de pause du cheveu, parce qu'il y a croissance, pause, chute, la phase de pause va mettre beaucoup plus de temps alors que normalement elle est assez courte.
Il n'y a pas aussi des problèmes d'irrigation, si tu disais que...
Oui, ça peut être un problème aussi de mauvaise vascularisation. S'il y a un cuir chevelu très enduré, très immobile, typique des cuirs chevelus africains, par exemple, hyper tendu, parce que la sécheresse du cuir chevelu, elle agit sur la mobilité et la souplesse du cuir chevelu, et la vascularisation, le cheveu est nourri par le sang, va moins se faire, effectivement. Donc ça peut ralentir le tout. Mais ça va d'abord jouer sur la chute, quand même, D'accord. Ça va être ça, le premier signal que mes cheveux ne poussent pas.
Ouais. Ensuite, j'ai l'alopécie de traction. Il y a la réponse dans la question.
Oui. C'est les chignons très, très, très serrés. Les danseuses sont vraiment sujets à l'alopécie de traction. Les tresses africaines, vraiment le tirage, c'est vraiment impressionnant. En fait, le cheveu texturé, curly, je dis texturé plus, vraiment frisé, crépus, c'est un des cheveux les plus fragiles parce que chaque vrille du cheveu, c'est un point de casse potentiel. Donc, c'est un cheveu très cassant sur une base de cuir chevelu sec, très sec, voire très, très sec, qui fait avec de la traction. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment des alopécies de femmes qui ont toute la partie frontale. Il n'y a plus rien. Il y a un centimètre de cheveux parce que c'est un cheveu les plus vulnérables. On dit souvent, mais c'est un cheveu hyper fort.
C'est ça.
Pas du tout. C'est le cheveu le plus sensible qui demande le plus de soins.
Qui demande le plus à être nourri, en fait.
Bien sûr. Et l'alopécie de traction, c'est on vient en plus de forcer le cheveu, de précipiter les cheveux en phase de chute, donc on le précipite en phase de chute, on vient abîmer le lieu d'habitation. Mmh. Donc ça atrophie. Si tu veux, tu vas donner une forme différente, tu vas rapetissir ton follicule. C'est vraiment fragiliser le lieu d'habitation même. Par traction répétée, mais je te parle sur parfois des années, des décennies. Hein.
Wow. Tu as mentionné quelquefois les déséquilibres hormonaux. Je voulais citer ce que j'ai vu dans une vidéo sur le compte Aroma Cosmétique qui dit que 90% des cas d'alopécie féminine est dû à un déséquilibre hormonal et que, je cite, le cheveu est hormonal avant tout. On a pas mal de cheveux hormonaux, de changements hormonaux au cours de la vie d'une femme, donc du coup, c'est problématique. Quoi.
Une femme est hormonale, les êtres humains sont bourrés d'hormones, sauf que les hormones, ça commence par le cerveau, hein, souvenez-vous, l'hypophyse, l'hypothalamus, donc c'est quand même très orchestré par le système nerveux sympathique et parasympathique, donc ça commence aussi par l'état de tension ou de détente, de vigilance, le cortisol vient aussi chambouler tout le reste. Donc les émotions sont ordonnées dans le cerveau, donc ça dépend aussi de comment on se sent, et ça c'est pas directement hormonal, quelle distance on met par rapport au stress. Et ensuite les hormones sont fondamentales pour les femmes, bien sûr, on est hormones, chaque cycle on est guidé et accompagné par les hormones. Sur le cuir chevelu, je te le disais, il y a des récepteurs hormonaux. Mmh. Et il y a des réceptivités hormonales très différentes selon les personnes. Chaque cas, chaque réceptivité. Donc il y a des personnes qui vont réagir beaucoup à des chutes postpartum, à des préménopauses, même au moment de la montée hormonale à l'adolescence. C'est très 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 variable. Mais effectivement, ici sur la ligne médiane, il y a beaucoup de récepteurs hormonaux. Ici aussi, pas mal ici pour les femmes. Les hommes, ça va être beaucoup plus le vertex. Donc toute variation hormonale va atteindre ces zones-là. Le cheveu adore les oestrogènes, il aime beaucoup moins les androgènes, mais s'il y a beaucoup d'oestrogènes et des chutes importantes d'oestrogènes dans un même cycle, parce que c'est bien d'avoir beaucoup d'oestrogènes, mais en fait, quand le niveau d'oestrogène descend trop vite, c'est ce qui se passe postpartum, c'est ce qui se passe de manière plus lente en préménopause, une diminution des oestrogènes. Donc c'est un petit peu plus doux et vraiment sournois, mais plus spectaculaire en postpartum, parce que d'un coup, on passe à des niveaux qui sont beaucoup plus bas. Il y a des gens qui vont bien réagir et d'autres qui vont vraiment, ces variations vont être vécues pour le follicule, dans son intelligence, comme un bouleversement hormonal. Donc, il va préférer faire chuter le cheveu. Mmh. Et quand on a des niveaux d'oestrogènes qui baissent très bas, il y a quand même des niveaux d'androgènes qui sont quand même présents. On a quand même des androgènes. Et donc, le cheveu va se retrouver avec des niveaux d'androgènes quand même bien présents et des niveaux bas. Et donc, c'est plutôt parfois le décalage qui va être traduit selon la réceptivité hormonale de la personne, comme il y a un problème, il y a un bouleversement, oh là là, je préfère chuter en attendant que le cheveu qui est poussé, soit pousse dans des meilleures conditions, un meilleur environnement. Mais à nouveau, le cheveu pousse par le sang, dans le sang, il y a la lymphe qui transporte les hormones, donc le cheveu est hormonal, mais pas que. C'est-à-dire qu'on ne peut pas projeter sur la stabilité hormonale si on a une réceptivité hormonale. Donc on peut réduire effectivement cette réceptivité hormonale, réduire aussi la réaction au stress, au cortisol, depuis tout à l'heure, on se dit que le cheveu est très holistique, global, holistique. Et donc, il faut jouer sur tous les tableaux. Mais évidemment, les femmes sont hormonales, mais les hommes aussi. Et les hommes sécrètent beaucoup plus d'hormones androgènes. On le voit bien que... et puis, il y a quand même le terrain héréditaire et génétique qui joue pour une bonne part. Mmh. Donc, dans une même fratrie, on va avoir des personnes... avec une alopécie androgénétique et la sœur avec une maxi chevelure et il y a rien qui bouge, tu vois. Et pour autant, c'est deux femmes très hormonales, forcément, avec des réceptivités hormonales différentes. Mais en fait, il y a des chemins de vie, il y a des histoires complètement différentes. Donc, je suis dans l'absolu, tout est à nu, enfin, faut nuancer, hein.
Ouais. Ok. Bon on va nuancer tout ça.
Faut toujours te nuancer. Ouais.
Et au fur et à mesure des épisodes, on mentionne aussi régulièrement le microbiote intestinal, quand à la base de beaucoup de problèmes de santé. Est-ce qu'il y a un lien entre la santé intestinale et la santé capillaire?
Oui, pour des sujets de de perméabilité de la paroi intestinale, tu sais, les syndromes d'intestin irritable, SS2I, ouais, c'est ça, syndrome de l'intestin irritable, les problèmes d'absorption de nutriments. Si la paroi intestinale est trop perméable, ben en fait, les nutriments, ils vont pas bien être absorbés et in fine, le cheveu va récupérer d'une moins bonne quantité et qualité de nutriments. C'est pareil pour les foies surchargées, ben derrière, on récupère moins de nutriments. Et le cheveu, hyper gourmand, hyper énergivore. C'est une usine à fabrication à nourrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il faut une alimentation idéale avec un focus sur certains aliments cheveux friendly. Mais il y a quand même, effectivement, ça se joue quand même avant puisque le cheveu récupère par le sang et le microbiote intestinal va évidemment jouer, mais sur comme sur tout le reste. Mais le cheveu va capter beaucoup. Donc absolument, absolument important. Et puis on parle aussi de microbiome du cuir chevelu. Ça, c'est aussi une autre paire de manches.
On va passer dans la partie soins.
Oui.
Et je voulais parler des soins in et out pour la santé du cheveu. Est-ce qu'on se focalise plutôt sur le in ou le out en priorité ?
Ben les deux, mon capitaine, hein, ça c'est comme tout. Les deux, enfin, pour moi, il faut agir de manière synchronisée si on veut être efficace, tu vois. Enfin, je vois pas comment on peut avoir une routine mécanique d'application produit aussi efficace soit-il sans gérer mon stress, mon alimentation. Ça n'a absolument aucun sens. Enfin, c'est même contre-productif, en fait, parce que ce que je vais réguler avec des produits, je vais venir le déconstruire avec une mauvaise hygiène de vie, peu de sommeil, une mauvaise alimentation. Ça n'a aucun sens. Enfin, moi, je ne crois pas du tout à l'approche full produit. C'est l'approche intégrative, quoi.
Bon, bah alors, on va passer sur les deux parties. Hein. On commence par l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans son assiette pour avoir des cheveux forts ?
Bah, alors, comme je te disais, c'est assez énergivore, donc il faut quand même des choses assez nourrissantes. Le cheveu, c'est beaucoup de protéines, de kératine, hein, c'est ce qui fabrique, c'est ce qui structure le cheveu. Donc, il faut aider à cette synthétisation. Donc, tu vas avoir tous les acides aminés soufrés, méthionine, cystéine, qu'on va retrouver dans l'ail, dans les oignons, enfin tout ce qui est, tu vois, à base de soufre, qu'on va retrouver beaucoup dans les abats. Alors c'est pas les aliments les plus gourmands, hein. Le foie pourtant c'est les plus aliments friendly, il y a vraiment foie nourrit, tout ça.
On en parle souvent,
c'est
même pour la carence en fer.
Ben oui, c'est magnifique. Après, évidemment, les œufs, les avocats, tous les acides gras essentiels. Tu vas avoir les lentilles, les légumineuses. Donc c'est quand même des choses qui vont être assez enveloppantes. C'est pas un régime carnivore, c'est pas un régime cru. Tu vois, c'est des plats avec voilà de la patate douce, de l'avocat, des œufs, des lentilles. C'est des choses assez complètes, assez nourrissantes qui il faut dans le lot, ou alors en supplémentation, en complément, se supplémenter. Pour moi, zinc, fer, groupe du vitamine du groupe B, c'est quand même hyper important, B12, B8. Mais c'est des choses qu'on retrouve dans l'alimentation, mais avoir un apport complémentaire, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est un peu les essentiels. Oméga 3, zinc, fer, vitamine D, très important aussi. Tout ça, ça va jouer aussi dans le renouvellement cellulaire, le stress oxydatif. Donc, tu vois, il faut aider l'usine à fabrication de cheveux. Donc, il faut aussi aider au renouvellement cellulaire. Les groupes de vitamine B jouent beaucoup là-dedans.
Moi, je ne connaissais pas du tout les acides aminés soufrés.
Soufrés.
Pour le cheveu. Mais t'es pas la seule à le dire, je l'ai déjà entendu dans la bouche de d'autres experts du cheveu.
Ouais. Si, c'est hyper intéressant. Et le MSM, en fait, tout ça, c'est indirectement, ça aide à la synthétisation de la kératine. Ça aide à la... Il y en a, on peut supplémenter directement en kératine. Hein,
mais c'est utile.
Ça peut être utile pour moi en cure ciblée. Mais je recommanderais je ne recommanderais pas de le prendre en continu. C'est vrai qu'il y a un peu une tendance là, aux actifs kéracomplexes kératine, mais en cure ciblée, 4 mois, je pense que c'est intéressant. Mais effectivement, dans l'alimentation, il y a vraiment tout ce dont on a besoin. Mais oui, c'est quand même une alimentation... tu vois, même, je me fais la réflexion, je me dis, mais en fait, c'est une alimentation qui n'est pas spécialement healthy. Tu vois, il ne faut pas manger que des graines. Mais... idéalement, il faut intégrer de la viande, il faut intégrer des choses qui vont quand même permettre à l'usine à fabrication de tourner. Quoi. Mmh. Donc les régimes sans viande vont être quand même un vrai sujet par rapport aux apports de fer et ménique. Quoi.
Tu as parlé de la kératine là, et je me demandais si c'était intéressant de supplémenter en collagène et en biotine aussi.
Oui, alors collagène, oui, notamment passé... 30-35 ans, enfin plutôt 35 ans, parce qu'il y a quand même une chute du collagène que l'organisme a du mal à fabriquer lui-même. Donc en fait, ça dépend de la quantité de collagène qu'on a à la base. Hein. Et le collagène va jouer dans l'ancrage du cheveu, dans l'élasticité globale. Mais donc il y a quand même un impact quand même dans la santé, la vitalité du follicule, de l'écosystème. Mmh. C'est-à-dire, il va tendance à vieillir, comme la peau. Hein. On prend du collagène pour avoir cet effet lifté, plus galbé, plus ferme. Et ben, ça va agir aussi sur la fermeté des follicules. Mmh. Le lieu d'habitation qui a tendance à s'atrophier, à se refermer, en fait, avec le vieillissement cellulaire. Mmh. Et collagène, oui, vraiment, c'est intéressant, à nouveau, selon les profils. Si on constate aussi une perte de fermeté dans le reste du corps, potentiellement, ça peut être la même chose au niveau du cuir chevelu. Je sais que maintenant, il y a un peu une mode à systématiquement recommander du collagène passé 35 ans. Ouais. Je pense que c'est un peu au ressenti. Selon le profil, si je vois une chute diffuse d'une personne qui est en ménopause, qui a 65 ans, je lui recommanderais bien du collagène. Quoi. Pour moi, c'est un profil idéal.
Et la biotine ?
Et la biotine, oui, mais tu vois, c'est comme la kératine. En fait, la biotine, normalement, il n'y a pas de carence, a priori. C'est comme un coup de boost pour renforcer, pour jouer sur la division cellulaire, le renouvellement cellulaire. Donc, c'est comme si on faisait fabriquer un peu mieux, on faisait tourner un petit peu mieux l'usine, la division cellulaire dans le cheveu. Donc, oui, mais normalement, faut faire attention quand même au risque de surdosage de B8. Donc, je le recommande que quand il y a un besoin, en cure ciblée. Souvent, la B8, elle est proposée avec de la kératine. Donc, quand t'as biotine, kératine, donc du coup, ça oui, mais en cure ciblée, pas automatique. Le cheveu, pour le coup, le complexe cheveux de Sunday Natural, je le connais bien. C'est pas mal d'avoir quelque chose de complexe qui va aussi agir sur le stress avec des champignons adaptogènes. Tu vois, enfin, selon les profils, hein, parce que tout n'est... Mais en tout cas, de l'ashwagandha, qui va avoir cette approche très globale, zinc, cuivre, tu vois, cuivre, on n'en trouve pas dans tous les, tous les compléments. Plutôt quelque chose de global et avec des petits shots, éventuellement, kératine, biotine.
Ok. Il y a aussi des plantes qui seraient intéressantes, je pense. J'en ai vu pas mal de citer l'ortie, la roquette, la prêle, le romarin. Ouais. Quand je les lis côte à côte, je me suis rendu compte qu'ils sont tous verts.
Tous verts, ouais. Bah oui, oui. Non, mais je crois que la nature, elle est bien faite. Et il y a un côté... tu sais, tout ça, c'est des plantes très reminéralisantes. Ok. Et en fait... pour certaines personnes, il y a un vrai sujet de reminéralisation. Tu sais, le cheveu capte les réserves en silicium, en sélénium. C'est hyper important. Hein. Vraiment, on n'en a pas parlé, mais c'est hyper important. Le côté reminéralisation dans la chute postpartum, quand il y a vraiment besoin de reminéralisation post-accouchement, c'est hyper précieux. Silice, prêle, roquette, ortie. Ça vient comme... tu sais, comme les bouillons hyper minéralisants, tu vois, ça vient comme apporter une sorte de force à l'organisme. Donc, c'est vraiment pas mal. Il y a même du topic directement, silicium. Tu peux l'appliquer directement sur le cuir chevelu quand il y a une dévitalisation, un épuisement. Mmh. Tu vois, des chutes liées à un épuisement global, burn-out. Donc, ça va être bien indiqué. C'est aussi ça travaille beaucoup les émonctoires, et notamment c'est pas mal de
les émonctoires,
tu sais, les organes de la détox, le poumon.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc ça, c'est très purifiant, notamment pas mal pour la détox du foie, tu sais, pour que le filtre des métaux lourds, mais aussi de tout ce dont on n'a pas besoin se fasse bien. Et quand il y a des foies chargées, c'est les cures de tisane, tu vois, de prêle, ortie.
Moi,
j'adore l'hiver.
Tisane amère, etc. Le goût.
Donc ça, c'est top. Et puis, le romarin, il y a aussi dans le lot des propriétés circulatoires. Pour le romarin plus, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des bienfaits du romarin. On retrouve beaucoup les recettes. Alors, j'ai fait mariner du romarin dans l'huile avec de l'ail, de l'oignon.
Je mets de l'eau.
Mais c'est très bien. C'est très bien parce qu'en fait, ça vient vasodilater les vaisseaux sanguins, les capillaires sanguins, et donc permettre à plus de sang de passer. Donc, s'il y a plus de sang, le cheveu est mieux irrigué. Donc, romarin circulatoire. Et les gens qui font des jeûnes après, généralement, c'est pas mal de faire ça. Parce que le jeûne peut avoir un impact. Tu le prives pendant une semaine de nutriments, ton cheveu, c'est compliqué. Après, par contre, souvent, ça peut refaire une belle pousse quand tu reprends avec la reprise alimentaire. Et la dernière chose que je voulais dire à ce sujet, c'est que l'ortie piquante s'applique en poudre directement sur le cuir chevelu.
Ah oui.
Écrasé, tu le mélanges avec de l'eau, de l'huile, un petit peu d'aloe vera, des huiles essentielles, et ça fait un bon bain aux poudres de plantes que moi, je fais beaucoup.
Roquettes,
le dimanche. Voilà. Mais c'est top. Vraiment, tu le laisses jusqu'à que ça durcit à peine. Très, très anti-chute. Ouais.
On continue avec les soins. Ah, justement, tu nous donnais déjà des recettes, des recettes personnelles.
Ah oui.
C'est là où on est souvent un peu perdu parce qu'il y a tellement de produits classés. Il faut trouver celui qui est adapté, rayon droguerie ou pas. On ne sait pas trop. Déjà, comment on sait qu'un produit est adapté à nos cheveux?
Alors, déjà, il faut bien connaître son cheveu, son niveau aussi de porosité. Donc, il faut connaître deux choses. Son type de cuir chevelu. Donc, gras, tendance gras, sec, très sec, et sa fibre normale, sèche, très sèche, fourchue, cassante. Il y a des besoins, donc il faut bien identifier ses besoins, ses préoccupations. Et par rapport à ça, il faut se laisser guider par les produits et par aussi l'énergie des produits. Il y a des produits qui nous disent d'autres moins. Il faut connaître son niveau de porosité. Donc pour ça, c'est un test rapide. Tu prends un cheveu propre, sain, tu le mets dans un verre d'eau. Donc il y a un test très simple pour connaître son niveau de porosité. C'est de prendre un verre d'eau, donc de prendre un cheveu propre. Si le cheveu reste à la surface, c'est qu'il est peu poreux. Si le cheveu tombe au fond du verre d'eau, c'est qu'il est très poreux. Et si le cheveu reste au milieu de l'eau, flotte, c'est qu'il a une porosité moyenne. Donc un cheveu très poreux, il faudra venir le nourrir en protéines, de choses plutôt riches, aller chercher de la nutrition et de l'hydratation. Un cheveu peu poreux, c'est qu'en fait, il capte très bien, il a déjà l'hydratation nécessaire et il faut pas le surcharger, sinon ça va faire le cheveu trop lourd, poisseux. Et donc là, on va chercher plutôt des textures très légères, de l'hydratation. Souvent, ça va être des actifs crème et eau. Ça va être des choses avec de l'aloe vera. Plus d'eau que de crème. La porosité moyenne, c'est l'idéal. C'est assez rare. Donc là, il faut tester les produits. Mais ça, c'est un peu entre les deux, quoi. C'est le niveau un peu idéal, sachant qu'on peut, sur la note chevelière, avoir des niveaux de porosité différents. C'est là où tout se complique.
En dessous, au-dessus.
Donc bon, ça, c'est une autre paire de jambes. Mais connaître sa porosité au global, c'est pas mal. On peut faire le test avec plusieurs cheveux. Par rapport à ça, ça va nous indiquer si on a besoin de plus d'hydratation, d'éléments plus nutritifs, etc. Ensuite, éviter tous les tensioactifs sulfatés qui font une très belle mousse, mais qui en fait rendent le cheveu addict à ça et décapent un peu trop aussi le cheveu. Donc, généralement, quand il y a des longues compos j'évite. Donc il faut être vigilant parce que en fait, parfois, on va nous dire que c'est clean, mais en fait, quand on regarde le détail de la compo, on va se rendre compte qu'il y a 1000 trucs. Donc, il faut connaître bien ses cheveux et en même temps, voilà, éviter toutes les silicones, les tensioactifs sulfatés, je te les ai dit, parce que c'est un effet cosmétique, mais qui, in fine, en fait... finit par déséquilibrer et en fait quand tu passes à une routine plus naturelle, plus clean, le cheveu en fait répond très mal quoi. Donc ça c'est un peu les impondérables, enfin les choses à vérifier. Après c'est faut tester ce qui voilà, moi je propose de tester, si ça marche pas ben on essaye un autre quoi. C'est simple.
Prochaine question.
Allons-y.
Elle est très simple mais pas forcément très facile à répondre.
Oui.
Il faudrait se laver les cheveux combien de fois par semaine ?
Homme ou femme ? Pas tous les jours. Ça, c'est à ne pas faire parce qu'on déséquilibre le microbiome. On enlève toutes les saletés utiles, tout ce qui nous aide à avoir un écosystème sain. Du coup, ça va souvent répondre avec des dermites, des états pelliculaires. Les hommes qui se lavent beaucoup les cheveux, par exemple, tous les jours, ça fait partie de leur routine quotidienne où ils se lavent tout d'un coup. Je dirais plutôt pour un cuir chevelu sec, une à deux fois par semaine, cuir chevelu sec à très sec, et cheveux gras, 2-3 fois par semaine, idéalement.
Ok.
Gras, tendance gras, 2-3 fois, ouais.
Ensuite, c'est dans la routine, il y en a beaucoup d'étapes, il y a le shampoing, le co-wash, l'après-shampoing, les masques, le sérum, l'huile, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on peut skip ?
Le minimum, il faut quand même un shampoing et un après-shampoing. Tout dépend de ton cheveu. Moi, je garderai tout. Enfin, mais faut le faire avec conscience. Le co-wash, il est très intéressant parce qu'il permet de squeezer l'étape du shampoing. Et pour certains cheveux, pour le coup, très poreux, ça va être intéressant. D'avoir un sérum de finition, c'est protecteur, anti-pollution. Mm-hmm. Ça nous protège de la poussière, des fourches, de la casse. Donc, je pense que c'est quand même bien. T'as même pas parlé du pré-shampoo encore. Hein.
Ah, je connais même pas.
Pré-shampoo, c'est à sec.
C'est un spray. Tu peux faire...
Non, ça peut être... Je te parlais tout à l'heure de mes routines avant-shampoing. Pour moi, avant-shampoing, c'est clé parce que c'est le cuir chevelu est beaucoup plus captif quand on le prémouille un peu et quand il n'est pas immergé avec trop d'eau, il va mieux capter les actifs. Donc avant shampoing, et puis c'est une façon d'agir aussi quand on a une chute, de faire un vrai soin à rincer. Donc non, moi je squeezerai rien. Voilà, c'est plutôt sur la qualité des produits et ses besoins, quoi. Non, squeezons rien.
Ok. Et ensuite, j'ai des soins assez spécifiques que j'ai vus et j'en ai trois et j'aimerais que tu me dises un petit peu ce que t'en penses.
Ouais.
Le premier, c'est les massages crâniens. T'en as parlé tout à l'heure.
Oui, ma passion. Je ne fais que je fais ça en cabinet. Pour moi, si on se massait le cuir chevelu comme on se brossait les dents, il y aurait beaucoup moins de chutes de cheveux. Je suis une addict ambassadrice. On soupçonne pas les bienfaits vraiment tous les jours, mais devant même. Moi, ça m'arrive de parler à mon conjoint et je me masse le cuir chevelu. Ça me permet d'être dans de l'actif passif et devant la télé, n'importe où. C'est... Donc oui, 100 fois oui.
Alors le second, c'est le hair yoga.
Oui, alors le hair yoga, c'est génial. Qui a inventé ça? C'est quelque chose que j'ai conçu à l'issue de ma formation de yoga. Je faisais un mémoire sur le yoga.
Donc
et
c'est
le
toi qui as inventé?
Oui, voilà. Et du coup, j'ai développé une pratique pour mettre de la conscience dans ses cheveux parce que j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de postures qui activaient la microcirculation sanguine par les inversions, qui amène un afflux sanguin. Et j'y ai ajouté aussi un peu de médecine chinoise traditionnelle d'activation du méridien du rein. Les Chinois, en médecine chinoise, ont dit que les reins fleurissent dans les cheveux, parce que les reins sont quand même responsables de notre ki, de notre énergie vitale. Donc, on peut mesurer la vitalité de la personne à sa chevelure. Donc, il y a beaucoup l'activation du rein. Et après, c'est beaucoup de mantra en lien avec la sécurité, puisque le cheveu est très en lien avec cette thématique symbolique, et beaucoup de d'automassage crânien, et quand même une salutation au soleil, mais avec des inversions qui vont être douces, hein. C'est pas des inversions très compliquées, mais oui, c'était utiliser les meilleures postures de yoga, j'ai trouvé ce qui pouvait agir d'une manière ou d'une autre sur le cheveu. Et quand je dis inspirer, je dis d'expirer vers la chevelure. Mmh. Parce qu'on fait souvent ça en yoga, on dit expirer dans les tensions, etc. Ben là, c'est l'idée d'apporter un peu plus de conscience sur cette zone qui est souvent délaissée, déconnectée du reste du corps, quoi.
C'est nouveau, mais c'est en lien avec ça, c'est le head spa.
Ben, le head spa, c'est on lave les cheveux. Et en même temps, il y a une gestuelle de massage, de stimulation ou d'apaisement selon le besoin. Moi, c'est quelque chose que j'adore parce que j'en conçois. Le headspa, ça nous vient de la tradition japonaise, hein, des bains, des sento, des onsen, avec ce rituel de lavage qui prend beaucoup d'importance. Donc, on se lave plus les cheveux en speed sous la douche. C'est souvent en institut ou voilà où certaines marques le proposent. Et là, on vient faire des applications de produits, mais qui sont complémentaires à des vraies phases de stimulation, d'activation de certains méridiens qui jouent dans la chute, par exemple. Enfin, c'est un temps de bien-être aussi global. Donc, c'est très holistique, le head spa, pour le cheveu, l'esprit. Enfin, c'est un moment de détente, mais vraiment focus sur la tête. J'adore.
On a parlé du head spa. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'un homme qui allait au head spa avec sa femme et était sorti complètement bouleversé sur une autre planète. J'ai vraiment adoré. Et je trouve que les hommes font de plus en plus souvent attention à leurs cheveux. C'est plus du tout rare, en fait, d'avoir des hommes avec une hair care routine.
Mais absolument. Même une skin care routine.
Ouais, voilà. Et mon mari, le premier, hein, les deux, c'est devenu vraiment décomplexé. Est-ce que c'est parce que, voilà, c'est une liberté ou c'est un trop grand symbole à perdre pour eux?
Ben oui, un peu des deux, mais tout à l'heure on se parlait de réappropriation. Les hommes, je trouve même d'un point de vue plus en hauteur, recherchent des territoires de contrôle. Parce qu'il y a, je pense, hein, mais alors ça n'engage que moi, mais c'est aussi ce que j'observe, il y a une perte de contrôle dans certains espaces de leur vie, notamment préemptés par les femmes de plus en plus, hein, qui sont des hommes et des femmes en même temps. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de comment reprendre le contrôle sur moi, sur ma vie, sur mal, sur la performance. Il y a vraiment quelque chose de prendre soin de mes cheveux et avoir une belle vitalité capillaire, c'est montrer, envoyer le signe au monde extérieur que je suis confiant, je suis jeune, enfin je suis en bonne santé. Il y a vraiment un switch sur ah oui, mais en fait, perdre mes cheveux peut dire de moi quelque chose que je n'ai pas envie qu'on sache ou de montrer. Donc ensuite, parallèlement, il y a quand même une avancée de la médecine et des techniques de greffe capillaire. Bon, on a vu beaucoup, il y a eu beaucoup de marketing et d'images venues de Turquie ou donc je pense qu'il y a aussi un effet et marketing et commercial, et que plus s'il y a plus de gens qui en font, ça fait des effets de masse. Après, je pense qu'il y a vraiment un truc plus profond lié à l'identité masculine. C'est une façon, je trouve, de s'assurer de son pouvoir aussi, j'ai encore du pouvoir, j'ai encore du contrôle. Donc c'est très touchant, je trouve. Moi, je reçois quand même des hommes en cabinet qui tiennent beaucoup à leurs cheveux. J'accompagne même des personnes au passage de greffe, parce que psychologiquement, c'est extrêmement difficile. C'est des changements d'identité, c'est un coup. Ouais. C'est derrière la peur de qu'est-ce que ça va être après, parce que la repousse post-greffe, c'est quand même très fin, très faible. Il faut prendre du minoxidil dont on a... Ouais. Voilà. Que les hommes supportent mieux, mais quand même. Donc, il y a quelque chose, je trouve, une conscience, mais je trouve que les hommes prennent soin d'eux, même dans leur allure physique. Et donc, il y a, il faut que j'ancre mon identité, que je prenne un petit peu plus ma place. Et le cheveu est très en lien avec la place que je prends dans le monde. Et donc, je vais réinvestir cet espace, ce territoire qu'est le cheveu. Vraiment, je trouve ça vraiment fascinant. Donc, oui, et ils vont être à même attention, ils vont être soucieux du bien-être, c'est-à-dire, ah non, mais ça me fait du bien. Donc, en fait, c'est vachement bien de se faire du bien. Donc, je vais revenir, je vais me refaire des massages crâniens, je vais me refaire des spas. Il y a juste, pour moi, une augmentation de la conscience. Ouais. Mais, donc, on y revient toujours. Et cette conscience, elle vient avec, je prends quand même soin plus. Je prends plus soin de moi, je me rends compte que ce que je fais a un impact. Ouais. Et les cheveux, j'ai pas envie de les perdre parce que ça dit de moi des choses importantes, quoi. C'est des valeurs, des,
des symboliques qui sont importantes pour moi, quoi.
Moi, je trouve ça trop intéressant. Ouais. On pourrait en parler encore plus longtemps, mais j'ai un dernier jeu avant qu'on parte. J'aimerais qu'on parle des mythes autour du cheveu.
Ah oui.
Et bah, y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de choses, d'accessoires, coiffures, etc. J'ai choisi 10 mythes.
Oui, alors tu me dis s'ils sont vrais ou faux. Ok.
C'est parti. La perte de cheveux chez les hommes est amplifiée par la consommation de boissons sucrées. Vrai ou faux?
Vrai et faux. Mais enfin, de consommation sucrée, ça dépend quelle consommation. L'alcool, je pense, a plus un effet.
Le sucre.
Amplifié. Le sucre, oui, le sucre, je dirais vrai et faux, parce qu'il n'y a pas que ça, mais c'est une circonstance aggravante. Oui.
Ok. Se laver les cheveux tous les jours, c'est mauvais.
Oui.
Ne pas se sécher les cheveux, voire dormir avec les cheveux mouillés, c'est donner un terrain propice aux bactéries et champignons.
Oui, vrai, vrai, 100 fois vrai.
Ouh là là. Il faut changer régulièrement de shampoing pour qu'il soit efficace.
Faux, non. Il faut, c'est-à-dire, c'est plutôt le besoin qui change. Après, c'est pas inintéressant d'avoir deux, trois types de shampoings qu'on change, selon pas à chaque shampoing, mais de varier, c'est pas une bêtise, quoi.
Les cheveux repoussent plus vite si on coupe les pointes souvent.
Faux, on l'a évoqué tout à l'heure. Non. Après, ça donne une impression de cheveux en meilleure santé quand même.
Le stress est le facteur le plus important de la chute des cheveux avant la génétique.
Non. Il y a, c'est 50-50. La génétique, c'est quand même très puissant. Hein. C'est pour moi 50%.
Le stress est le facteur le plus important de l'apparition des cheveux blancs.
Oui, il y a une oxydative. C'est le stress oxydatif, oui. Franchement,
donc
oui.
Vrai.
Plutôt vrai.
Pendant le Covid...
Héréditaire aussi, mais bon, ok. Ouais.
Pendant le Covid, là, tu disais, j'ai des amis qui ont fait des cures de sébum. C'est utile ou c'est du bullshit?
C'est bullshit quand tu restes un mois les cheveux gras et que t'asphyxies de sébum tes follicules. donc ça, c'est pas une bonne idée. Mais bon, après, ça se régule bien. Ouais. Laisser son cheveu sale un jour de plus ou deux, c'est pas inintéressant. Du coup, ça lui apprend à mieux se comporter.
Donc
en fait.
Pas un mois, mais un peu.
Oh, un ou deux jours. Si tu te laves un ou deux jours, tu recules d'un ou deux jours, c'est génial.
Ok. Les shampoings pour la pousse de cheveux en supermarché, ça marche?
Ça dépend lesquels en supermarché, mais bon, tu m'as dit le mot supermarché, donc je dis... En fait, ça peut marcher parce que je te dis que le cheveu est très énergivore et quand tu le donnes à manger ce dont il a besoin, il finit par répondre. Hein. Les compléments alimentaires marchent relativement bien. Mais après, on se parle de biodisponibilité, on se parle de quelles traces on laisse au niveau capillaire, est-ce que ça vient pas déséquilibrer autre chose? Donc après, il y a un sujet de concentration d'actifs et de qualité d'actifs qui est discutable. Donc moi, je dirais, l'antichute de supermarché, bof.
Bof. Ensuite, c'est le dernier. Donc ça, je vais expliquer un petit peu mieux. Il y avait ma mère, quand elle, dans un livre de jeunes parents, elle a lu quelque chose. Et donc, quand j'étais bébé, elle m'emmenait chez le coiffeur les soirs de lune montante à pleine lune pour que mes cheveux poussent enfin, parce que j'avais pas de cheveux. Et maintenant, je suis un loup-garou. Non, je déconne. Maintenant, j'ai une belle touffe, tu vois.
Je vous confirme, en fait, elle a une tête de loup-garou quand même. Voilà.
Méthode approuvée ou c'est juste parce que ma mère avait une belle touffe aussi?
Alors, tu sais que c'est une tradition, les Russes ne se coupent les cheveux qu'à la pleine lune. Et c'est, pour eux, c'est normal, c'est pas un truc de perché. Non, elle a plutôt raison parce qu'il y a quand même une intention, une intensité énergétique lors de la montée de la pleine lune, qui est vérifiée, hein, la lune change quelque chose dans les marées, dans nos humeurs, et même dans l'eau qu'on a dans le corps, et dans le cheveu est quand même composé d'eau. Hein. Donc il y a quand même une résonance qui est subtile, mais si on s'y connecte, c'est-à-dire si on le fait en conscience, je suis convaincue, après c'est une histoire de croyance, qu'il y a des effets. La coupe énergétique, beaucoup de personnes viennent la faire à la pleine lune ou en lune montante. Et je trouve qu'il y a une intensité qu'il n'y a pas en nouvelle lune ou en lune descendante. Mais à nouveau, beaucoup pourront dire que c'est une croyance populaire. Moi, je crois qu'il faut essayer, quoi. Et puis, t'as une belle chevelure, là.
Oui, ça a bien marché. Ouais. Je dirais ça à ma mère, du coup.
Ouais, tu me le diras.
Merci, maman. Ouais. Pour en savoir encore plus sur la santé de vos cheveux, on retrouve la Bible de Malika, Good Hair Death, c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Sinon, on peut te retrouver sur ton site et tes réseaux sociaux qu'on mettra en description. Tu donnes des consultations aussi, tu l'as expliqué.
Oui.
En tout cas, j'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci Malika.
Mais merci Noémie, les questions étaient parfaites.
Oh, je suis ravie. Voilà, on se retrouve la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt avec Sonne Naturelle. Avant que tu partes, question pour toi. On a cité plein de nutriments, mais toi, tu prends quoi comme complément alimentaire?
Je prends, alors tiens-toi bien, je prends du zinc, je prends des oméga-3, je prends du myo-inositol pour l'équilibre hormonal, je prends des coenzymes Q10. Ouais. Ah oui, pour les mitochondries, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est important. C'est d'un point de vue cellulaire. Je prends le complexe cheveux de
Sunday. Le fameux.
Je prends donc zinc, qu'est-ce que je prends d'autre? Oméga 3. Vitamine D. Faire une partie de mon cycle. Et qu'est-ce que je prends d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. Hein.
Ouais, c'est une bonne
liste.
Ouais,
c'est pas mal. Ouais. Bah je crois que c'est tout. Ouais.
Merci pour tes conseils.
Avec plaisir. À bientôt, Sunday.